Bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un métier assez particulier et assez méconnu du grand public. J'ai rendez-vous avec Madame Chez. C'est avec elle que nous allons découvrir ce métier. Je vais la laisser se présenter et nous dire ce qu'elle fait dans la vie. Madame Chez.
Bonsoir, moi c'est Madame Chez, sexologue béninoise depuis 2017. J'interviens en freelance.
Alors, ok. Comme vous l'avez dit, vous êtes sexologue. Dans quoi consiste le métier de sexologue dans un contexte qui est celui du Bénin, plus particulièrement de l'Afrique en général?
En réalité, le contexte est le même partout. Jusqu'en Afrique, c'est encore un sujet très tabou. Les gens ont du mal à exprimer leurs besoins, à dire ce qui ne va pas dans leur vie sexuelle et tout. Donc, c'est vraiment un métier très fermé au Bénin, surtout en Afrique. Par contre, en Europe, les sexologues sont quasi présents dans toutes les villes. Donc voilà, c'est un métier vraiment très tabou en Afrique.
Effectivement, la question de la vie sexuelle est assez taboue encore en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer sur cette question. La question que moi je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce que ce sont les hommes ou ce sont plutôt les femmes qui sont plus enclins aujourd'hui à aller vers les sexologues, comme vous?
Je vais dire que c'est mitigé. Effectivement, constate que plus en plus de femmes s'ouvrent à ce sujet parce qu'elles sont les premières victimes. Dans notre domaine, on rencontre des femmes qui n'ont plus de plaisir suite à un viol ou des choses comme ça. Mais non, côté homme, c'est surtout des problèmes d'ordre, de faiblesse sexuelle, d'endurance et tout. Donc, c'est vrai, l'affluence est beaucoup plus forte au niveau des femmes qu'au niveau des hommes.
Est-ce que vous recevez vraiment, hommes ou femmes confondus, des personnes qui viennent consulter ou viennent voir le sexologue parce qu'ils ont un problème dans leur vie sexuelle?
Oui, c'est vrai que c'est un domaine très caché, surtout au Bénin. Je pense qu'en termes de sexologue, on n'atteint même pas encore la dizaine. Je crois qu'il y a entouré pour tour à l'heure actuelle 4 sexologues reconnus. Je dis bien reconnus au Bénin. Donc oui. Ils viennent de temps en temps quand ils ont vos coordonnées, mais non. Ils ont plus de difficultés tout de suite dès qu'ils vous rencontrent à exposer leurs problèmes. Donc, le plus important, c'est de savoir mettre l'intéressé en confiance, de le pousser à vraiment dire ce qui ne va pas dans sa vie sexuelle.
À quel moment est-ce que un homme, une femme, en couple ou dans une relation décide ou doit se dire il faut qu'on aille voir le sexologue?
Déjà, je pense que c'est au moment où, en tant qu'être humain, on sent qu'on n'a pas une certaine satisfaction sexuelle ou qu'on a des difficultés à aller à l'acte. Je prends le cas d'une femme lambda qui s'est fait violer au cours de son adolescence et qui, à cause des séquelles psychologiques et même physiques subies, n'arrive pas à aller au sexe avec un homme si ce n'est pas par violence. Oui, dans ce cas-là, par exemple, elle a effectivement besoin d'un sexologue qui puisse l'aider à revoir l'acte sexuel autrement. Ou de certaines femmes qui, parce qu'elles ne maîtrisent pas leur corps, parce qu'elles ne comprennent pas les besoins physiologiques de leur corps, n'arrivent pas à jouir au cours d'un rapport sexuel avec un homme. Donc, je pense que déjà, le besoin se fait sentir quand on se dit, voilà, je ne jouis pas. Maintenant, s'il y a un cas beaucoup plus grave, et surtout en Afrique, c'est que pratiquement 80% des femmes africaines ne savent même pas ce que c'est que la jouissance. C'est-à-dire, elles ont fait des années de rapports sexuels sans jamais jouir, ne serait-ce qu'une fois. Du coup, quand on leur montre cet autre côté, ils se rendent compte qu'effectivement, ah ouais, j'ai des rapports sexuels, mais je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Parce qu'en Afrique, on nous a appris une chose, les rapports sexuels, c'est pour les enfants. C'est pour faire des enfants, point. Mais c'est toute autre chose, il y a tout un plaisir derrière qu'on ne découvre pas. Donc je pense qu'en fait, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a besoin d'avoir recours à un sexologue, ne serait-ce que pour savoir ou pour s'améliorer dans ce qu'il fait. Donc, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, aller voir le sexologue ne coûte pas trop cher? Parce que c'est aussi ça. Quand, même si les couples arrivent à dépasser le stéréotype du tabou et tout, et qu'ils décident vraiment d'aller consulter, est-ce qu'aujourd'hui, l'accès ou la visite chez le sexologue est accessible aux citoyens lambda avec un revenu moyen?
Oui, je pense que oui. Et comme j'ai l'habitude de le dire à mes clients, le plaisir n'a pas de coût. Le plaisir n'a pas de coût. Donc oui, c'est accessible aux citoyens lambda. C'est un peu comme quand on va consulter le dentiste ou quand on va consulter le gynécologue. Ce n'est pas aussi cher. Les tarifs sont faits en fonction du milieu dans lequel on travaille.
Est-ce que vous pensez qu'en allant voir le sexologue pour gérer sa vie sexuelle, on peut éviter certaines situations comme les violences conjugales, je ne sais pas, le harcèlement? Est-ce que ces visites auprès du sexologue peuvent avoir un impact sur les personnes qui sont aujourd'hui coupables de viol ou de violences sur leurs épouses?
Assurément, mais je vais reprendre mon mot fétiche, c'est encore mitigé parce qu'il y a l'aspect physiologique et psychologique de la chose, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont de vrais, réels problèmes psychiatriques qu'il faudrait traiter en dehors de l'aspect sexuel. Il y a certaines personnes vraiment qu'il faudrait accompagner dans ce sens-là. Surtout quand je prends le cas du violeur, ce n'est pas seulement lié au plaisir charnel qu'il éprouve en violant la victime, c'est d'abord psychologique. Donc oui, le sexologue peut arriver à gérer ces cas-là, mais il peut forcément relativement avoir besoin d'un psychiatre. Parce que ce sont des cas sociaux, comme on dit. Et je ne pense pas qu'une personne en possession de toutes ses facultés mentales puisse vouloir se lever et trouver du plaisir dans du jeu. C'est vrai qu'il y a les personnes masochistes, sadomasochistes. Ça, c'est autre chose. Parce que même dans cette violence, il y a une forme de consentement. Mais le viol, c'est tout autre chose. Donc, je pense que c'est d'abord un problème mental. Donc, c'est pas évident que seul un sexologue puisse résoudre des cas aussi complexes.
Alors, parce qu'on parle beaucoup du rôle, depuis le début de l'interview, on parle beaucoup du rôle que votre métier peut avoir pour les couples qui se forment. C'est-à-dire, moi je me demande aussi, parce qu'il y a cette situation qui est également récurrente, c'est celle où, après des années de mariage, les couples ne réussissent pas forcément à avoir des enfants. Est-ce que aller voir le sexologue peut contribuer en fait à trouver une solution, c'est-à-dire à équilibrer quelque chose dans cette situation où, parce que généralement on accuse, dans la société africaine, on accuse souvent les femmes d'infertilité ou de stérilité. Donc, est-ce que le fait d'avoir pris l'habitude d'aller voir son sexologue pourrait permettre de prévenir ou de changer en quelque sorte l'idée qu'il y a derrière, ou cette idée préconçue là, que les femmes sont responsables généralement de l'infertilité des couples?
Je pense déjà qu'en 2020, cette idée préconçue est déjà totalement aliénée en arrière, parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent que la stérilité n'est pas seulement féminine, elle est dans les deux camps. L'homme peut être aussi stérile, donc c'est d'abord d'ordre médical, et ça, le sexologue mieux peut réellement pas apporter une solution. Au fait, il faut voir le métier du sexologue un peu comme le psychiatre du sexe. Il y a des mal qu'il peut soigner, il y a des maux plutôt qu'il peut soigner, mais il ne peut pas tout réparer. La stérilité est vraiment d'ordre médical. Et je pense que mes collègues gynécologues et tout seraient beaucoup plus aptes à gérer ces cas-là. Donc, non, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons en aucun cas aider à la fertilité. Nous ne pouvons aider qu'à la bonne tenue des relations sexuelles, qu'au plaisir et qu'à corriger certains mal psychologiques liés au sexe. Mais en réalité, on ne peut pas, par exemple, soigner une MST ou une IST. Et je pense que la stérilité est d'ordre médical, dans cette même catégorie de mal. Donc, non, le psychologue est le sexologue là, mais ne peut pas vraiment guérir la stérilité. C'est archi faux.
Ok. Donc, comme vous l'expliquez, c'est donc essentiellement votre métier se tourne autour du plaisir durant l'acte sexuel. C'est bien ça?
Pas seulement autour du plaisir durant l'acte sexuel. Elle tourne autour de l'acte sexuel en lui-même. Comment il est fait? Pourquoi il est fait? Et comment mieux le faire? Comment ressentir du plaisir? Comment connaître son corps? Comment être à l'écoute de ses besoins?
Ok. Alors, je vais rentrer et vous poser des questions qui sont un peu plus générales et que beaucoup de personnes se posent parmi mes auditeurs, j'imagine. Alors, on se demande souvent combien de temps est-ce qu'il faut passer à faire l'amour avec quelqu'un? Ou combien de temps doit durer normalement un acte sexuel? Donc, je ne sais pas quelle réponse est-ce que vous apportez à ça. Est-ce que le bon acte sexuel, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est 20 minutes, ou c'est 1 heure ou 2 heures?
Déjà, je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Le bon acte sexuel est totalement en déphasage avec ce qu'on voit dans les films porno. Il faut 45 minutes de sprint ou 1 heure de sprint. Non, il n'y a pas vraiment de durée déterminée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un acte sexuel normal sans aphrodisiaque dure en moyenne entre 10, 15, 20 à 30 minutes maximum. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces films porno ne sont pas tournés en séquence continue. Ces gens-là le font en plusieurs phases. Vous ne le savez pas, mais le corps a ses besoins, le corps réagit autrement. La femme ne peut pas, par exemple, mouiller sans l'intervention de lubrifiant pendant plus d'une heure de temps. Et ses frottements finiront par lui faire mal. Donc, en réalité, ce n'est pas dans la durée que le plaisir est. On peut faire jouir, et ça je le dis haut et fort, on peut faire jouir une femme en moins de 5 minutes chrono.
Ce n'est pas la durée qui compte, il faut taper au bon endroit, au bon moment.
En quelque sorte, oui, mais quand on dit taper, là, c'est juste stéréotype, c'est à la limite sauvage. Non, c'est pas dans ce cadre-là. Mais oui, on peut dire que vous avez vu juste, il faut savoir taper au bon endroit et au bon moment. Le plus important, c'est connaître l'autre. Quand on sait quel point est sensible pour son partenaire, on peut arriver au plaisir même sans pénétration. Le couple peut jouir même sans pénétration.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces informations-là, qui se disent peut-être il faut que ce soit long, que ce soit, je sais pas, que ce soit violent. Parce qu'il y a ça aussi, vous avez parlé tout à l'heure des films pornographiques, dans lesquels il y a beaucoup de violences qui sont véhiculées et tout. Donc, qu'est-ce que vous leur dites au fait? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Je leur demande à chaque fois qu'ils ont une partenaire. De toujours chercher en priorité à être à l'écoute du corps de l'autre. Si possible, discuter avant même de passer à l'acte, histoire de savoir ce que ton partenaire aime ou pas. Parce qu'on parle de violence tout à l'heure et on disait que c'était limite sauvage. Mais dans le même cas, je connais des patientes qui, elles, ne jouissent que quand il y a de la violence. Il y a aussi des cas où, quand on est violent avec la femme, mais c'est des séquelles pratiquement irréversibles. Donc, le tout dépend de qui vous avez en face de vous. C'est pour ça qu'on dit, je vais revenir peut-être traditionnellement en Afrique, où on dit qu'il faut vraiment connaître son partenaire avant d'aller à l'acte. Oui, on n'est pas si bête que ça en Afrique avant de le dire. Voir quelqu'un aujourd'hui et coucher avec la personne, oui, c'est possible que vous alliez au plaisir. C'est possible qu'il y ait de la jouissance. Mais il est fort probable que vous ne connaissiez pas le corps de cette personne et que pour, par conséquent, vous ne réussissez pas à faire jouer cette personne. Donc, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps de son partenaire. Je le dis et je le répète, et ça va dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui, par exemple, ne savent même pas caresser leur homme. Le plus important pour elles, c'est de juste se déshabiller, s'étaler sur le lit. Le mec, il doit être là à faire des caresses et tout. Non, les caresses, c'est dans les deux sens. On doit pouvoir connaître les points sensibles de son homme.
Donc, une autre question, Madame G. Ce qu'on se demande aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de couples qui volent en éclats à cause de cela. Parce que le sexe, c'est vrai, c'est, beaucoup de gens ne disent pas ou ne l'affichent pas, mais ça reste quand même assez important dans les couples. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent ou cessent d'être ensemble pour des raisons sexuelles, parce qu'ils ne sont pas satisfaits du point de vue sexuel. Alors, est-ce que vous pensez que le sexe est vraiment une raison importante pour rompre avec quelqu'un?
Le problème, c'est que l'être humain est en quelque sorte à l'état bestial. Excusez la sauvagerie de ce mot, mais c'est vrai. La seule différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est notre façon de raisonner. C'est le raisonnement qu'on émet. Donc, il y a des besoins qui sont importants, limite instinctifs. Du coup, même s'il y a de l'amour, même si le couple s'aime et que sexuellement, il n'arrive pas à une certaine harmonie, à une certaine entente, à un moment donné, ça vole en éclat. Et ça vole en éclat à quel moment? Quand l'un des deux partenaires a un amant en dehors du cadre conjugal qui arrive quand même à l'épanouir sexuellement. À ce moment-là, oui, le couple vole en éclat puisque le plaisir n'y est pas. On, à la limite, on devient bon camarade ou bons amis, mais le couple vole en éclat. C'est pour ça justement que nous, les sexologues, nous existons. On essaye vraiment d'apporter une solution à ces couples-là qui vivent ces difficultés-là.
Sinon, il y a d'autres pratiques qu'on voit aussi qui se développent beaucoup maintenant. C'est surtout les pratiques où il y a des troubles. Des personnes.
Vous voulez parler des échangistes?
Oui, en quelque sorte, mais pas seulement des échangistes.
Des orgies.
Des orgies, mais aussi ou surtout des personnes qui sont en couple à trois, au fait. Par exemple, est-ce que vous conseillez en tant que sexologue, pour atteindre peut-être le plaisir, d'aller dans un club échangiste, par exemple, dans un, pour faire des orgies, ou je ne sais pas, des partout avec des personnes?
Ma réponse risque de choquer plus d'un, comme à chaque fois. Mais je peux dire que oui, si ça leur permet d'atteindre leur plaisir et de garder l'équilibre du couple, oui. J'ai bien dit, d'atteindre leur plaisir et de garder l'équilibre du couple. Parce qu'effectivement, en Europe, les gens regardent beaucoup plus tolérants sur la chose. Mais en Afrique, où l'homme africain est dans toute sa fierté, le coq ne veut pas partager sa poule, c'est un peu complexe. Mais s'il arrivait que les deux aient une certaine maturité d'esprit pour comprendre ça et pour ne pas laisser voler en éclats leur couple, oui, pourquoi pas si ça leur permet de prendre leur pied. Qui sommes-nous pour juger?
Donc, vous êtes plus, ou en tant que sexologue, vous êtes enclin aux pratiques de libertinage sexuel?
Ah, je pense que c'est une question d'ordre privé. Ce que je peux vous dire dans ce sens, c'est que j'ai une large ouverture d'esprit. Mais donc, quant à ce que moi-même je pratique, je pense que c'est vraiment d'ordre privé. Je suis vraiment ouvert d'esprit sur la chose. Je ne juge pas. Chacun trouve son plaisir dans ce qui lui plaît. Donc, oui. Si l'homme, pour jouir, a besoin de voir sa partenaire se faire prendre par un parfait inconnu dans un parc, pourquoi pas?
D'accord, Madame G. Il y a une question aussi qui est très importante et que je me dois de vous poser. C'est de savoir est-ce que vous êtes favorable au fait au plaisir entre personnes de même sexe?
En tant que sexologue, je l'ai dit tout à l'heure, je ne juge pas. J'ai une large ouverture d'esprit, franchement. Maintenant, mon avis personnel, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais je me dis que c'est un dysfonctionnement, un déséquilibre qu'on peut arriver à soigner si la personne a envie de changer, puisque ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Mais je me suis rendu compte au cours de mes expériences professionnelles, il y avait le cas, par exemple, on ne peut vraiment pas parler, mais je me suis rendu compte que ces personnes-là, en réalité, se sentaient, quand je prends le cas d'un gay, par exemple, qui se sent femme, donc psychologiquement, le mec pense qu'il est une femme. Ils en arrivent même à avoir des, je vais dire, des signes même de menstruation, c'est-à-dire, ils pensent même qu'à la fin de chaque mois, il est capable d'avoir des règles. Un cas comme ça, par exemple, je n'ai pas que le sexologue pour guérir ça. Il faut aussi pratiquement un psychiatre. Mais non, on ne peut pas le faire sans la volonté de la personne. C'est pour ça que je dis, on ne juge pas. On ne juge pas. Le sexologue reçoit toutes les catégories confondues et essaye de leur apporter des solutions. Mais Madame G, la personne physique, elle pense que ce sont des cas qu'on peut vraiment corriger, des cas qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a donné un pénis à un homme, un vagin à une femme, et que c'est un trou qui doit être comblé. Et non, bon, je vais essayer de ne pas être trop, de ne pas trop donner des thèmes choquants, mais voilà. Donc, je pense que la question est épuisée.
Ok, merci beaucoup, Madame G, de nous avoir fait découvrir votre métier. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez particulièrement au quotidien que vous souhaiterez partager avec les auditeurs?
Les difficultés sont plutôt d'ordre, je vais dire, africain. On va dire ça en crise comme ça, parce que déjà, en tant que femme dans ce milieu, les hommes vous portent un regard à la limite pervers, au lieu de juste comprendre que c'est un métier comme tous les autres et qu'ils devraient restreindre leur pulsion. Certaines femmes vous regardent, certaines avec admiration pour avoir pris le courage de mettre pied dans ce métier-là, mais d'autres sont plutôt sceptiques qu'elles doivent vous voir et exposer des problèmes de couple. Donc, c'est juste là, le problème de confiance, le problème encore une fois de tabou où l'Africain n'aime pas trop parler de sexe. Mais à part ça, il n'y a pas de difficulté majeure.
D'accord. Sinon, que je vais demander à mes auditeurs qui ont des questions à vous poser, de les laisser en commentaire pour que je vous les transmette et qu'éventuellement vous leur répondez dans un autre podcast ou en commentaire également. Donc, merci beaucoup, Madame G, d'avoir participé à cette petite émission podcast. Et si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs?
Le dernier mot, c'est encore une fois pratiquement un mantra que je chante. Soyez à l'écoute de votre corps. Tout simplement.
Merci, Madame G. Et à bientôt.